Bonjour, frères et sœurs en Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous encore ce matin. C'est vraiment marrant, hein? On ne voit plus les visages souriants. Tous les visages souriants sont derrière les masques. Alors c'est un peu compliqué, mais bon, on n'y peut rien. Et ce matin, je suis venu apporter la parole du Seigneur. David, dans l'une de ses louanges au Seigneur, il écrivait ce cantique et dit « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Et il continue, dit « C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » C'est un verset très important pour nous chrétiens. L'union des chrétiens, l'union des frères et sœurs en Christ. Et ce matin, je voudrais parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour ses enfants. L'amour de Dieu pour nous qui sommes ses enfants. L'amour de Dieu pour chacun de nous ici présents. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est... L'amour de Dieu est si fort que tout ce que nous pouvons imaginer. Et à l'école du dimanche chez nous au Togo, les enfants d'Awana, ils chantaient une chanson très merveilleuse, dit « L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, il est si bas, qu'on ne peut le rabaisser, il est si large, qu'on ne peut le contourner, oh quel amour. » Et il chantait avec joie, et il chantait avec des gestes. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est si large que personne ne peut le contourner. L'amour de Dieu. Alors, l'amour de Dieu qui est si merveilleux, l'amour de Dieu qui est si grand, puissant, fort, est-ce que nous nous laissons aimer par Dieu? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous laissons aimer par ce Dieu qui s'appelle Dieu amour? Et ce serait le thème du message de ce matin. Comment devons-nous se laisser aimer par Dieu? Vous savez, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants. Et Dieu veut que ses enfants se laissent aimer par lui seul. Et si je vous posais cette question ce matin, quel est le plus grand besoin de l'homme? Que me répondriez-vous? Le plus grand besoin de l'homme, le besoin fondamental pour l'homme, d'être aimé, bien sûr d'abord avec vous, l'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Le plus grand besoin que l'homme a besoin sur cette terre,
c'est son amour, l'amour de Dieu. Nous traversons, en tout cas le monde entier traverse une période très difficile, très compliquée. Très difficile, très compliquée. Et même les hommes n'arrivent même plus, ils ne savent même plus ce qu'ils disent, excusez-moi le thème. Les scientifiques ne savent même pas ce qu'ils vont faire de ce petit virus-là qu'on ne connaît pas. Ils ne savent pas. Ils disent des choses. Ils se contredisent. Ils reviennent arrière. Ils disent encore autre chose. Et nous, les hommes, qu'est-ce que nous allons faire? Mais Dieu est toujours là. L'amour de Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Mais non. Le plus grand besoin que nous avons besoin, eh bien, c'est d'être aimé par Dieu et c'est d'être aimé de Dieu. Et nous allons lire un passage, je vais inviter un frère à nous lire ce passage dans 1 Jean, chapitre 4, versets 10 à 21. Quelqu'un va nous le lire dans l'assemblée, s'il vous plaît. Une voix intelligible.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé.
Amen. Seigneur Jésus, bénis ta parole dans nos vies. Gloire te soit rendue au plus haut des cieux de ce que tu es, de ce que tu veux encore nous parler, Seigneur. Dispose nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que tu voulais nous dire encore ce matin. Honneur et gloire te soit rendue au plus haut des cieux dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que nous ne devons jamais oublier que l'amour de Dieu est toujours disponible. L'amour de Dieu est toujours permanent. Quoi qu'en soit ce qu'il arrive, quoi qu'en soit ce qui peut nous arriver sur cette terre, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, je ne sais pas quoi, l'amour de Dieu est toujours permanent. Vous savez, l'humanité tout entière est malade. L'homme est malade. Nous sommes malades et nous avons besoin de guérison. Et la première action de cette guérison, eh bien, c'est de recevoir cet amour. C'est de recevoir l'amour de Dieu. En d'autres termes, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et Dieu continuera toujours de nous aimer tels que nous sommes. Et la Bible nous dit que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni onde de variation. Oui, Il n'y a pas de changement chez Dieu. Dieu a créé la lumière. Dans la lumière, il y a de changement, il y a de variation. Mais Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Il est toujours égal à lui-même. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ce virus qui fait ravage dans le monde. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce que Dieu a changé? Si nous voyons les choses, si nous voyons le monde, qu'est-ce qui a changé dans le monde? Qu'est-ce qui a changé depuis, je ne sais pas, janvier, décembre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé? Si ce sont les hommes qui ont changé des choses, des hommes qui disent des choses, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours égal à lui-même. Il est là, il nous regarde. L'amour de Dieu est toujours disponible. Dans tout ce qu'on peut dire, dans tout ce qui peut arriver, l'amour de Dieu est toujours disponible. La Bible dit que ce n'est pas nous qui avions aimé Dieu en premier. Non, ce n'est pas nous. Il a dit que Dieu nous a aimé le premier. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure au verset 19. Nous l'aimons parce que lui, Dieu, nous a aimé le premier. C'est pour cela que nous l'aimons. Parce que lui nous a aimés. Si c'était nous, peut-être, qui avions aimé Dieu en premier, au premier abord, mais nous pourrions demander à Dieu, mais c'est moi qui t'ai aimé le premier. Nous devons demander au retour de nous aimer. Oui, c'est ce que l'homme fait. Mais c'est moi qui t'ai donné le premier. Tu dois me donner au retour. Mais non, Dieu nous a aimé le premier. Et Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Non. Parce que c'est lui qui nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier lieu. Nous n'aurions rien mérité d'ailleurs. Rien. Parce que nous sommes sa créature. Nous sommes ses créatures. Et nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui qui décide. Il est le Dieu en lui-même. Il est le Dieu, il est le souverain. On l'a dit tout à l'heure, le frère l'a dit, il est le Dieu souverain. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. S'il veut faire disparaître ce virus en une minute, il va le faire. Nous, on a peur. Les hommes ont peur. Nous croyons que peut-être le virus est là, en train de circuler par-ci, par-là. Et on a peur. Oui, mais Dieu n'a pas peur. Dieu sait ce qu'il doit faire. Mais est-ce que nous nous confions en Dieu? Si les gouvernants, ceux-là qui gouvernent le monde, peuvent se rassembler un jour pour dire, venez, nous allons prier Dieu. Amen. Si cela peut se passer de cette manière, on aurait trouvé une solution. Où est-ce que nous avons laissé Dieu? Où est-ce que nous avons laissé l'amour de Dieu? Où est-ce que nous avons laissé l'amour de Dieu dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos maladies? Où est-ce que nous avons laissé l'amour de Dieu? L'amour de Dieu ne change pas. Mais nous ne méritons rien. Nous sommes des pécheurs, des pauvres pécheurs. Nous avons désobéi à Dieu. Et nous avons mérité la punition, c'est tout. Nous méritons la prison, la punition. Mais dans tout ça, dans tout cela, la Bible dit que Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous. Et l'apôtre Paul dira, lorsque nous étions encore pécheurs, ou bien lorsque nous étions sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour nous, les pécheurs. Christ, autant marqué, il est mort pour nous lorsque nous étions des pécheurs. Il est mort pour nous. Quelle faveur! Quelle grâce! Et pourquoi Christ devait-il mourir à la croix pour nous? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il est obligé de mourir à la croix pour nous? Mais non! Mais c'est à cause de quoi? De nos péchés. cause de nos péchés. Il faut le dire. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous devons reconnaître cela, que nous sommes des pécheurs et nous ne pouvons rien faire. Et que Christ, lui, il est mort pour nous à la croix. Il s'est offert comme victime expiatoire, nous avons lu tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est qu'une victime expiatoire? Une victime expiatoire. Je donne un exemple. Imaginons, nous sommes au tribunal. Nous sommes à la cour d'appel, tribunal de Paris, je ne sais pas quoi. Et au tribunal, nous avons un juge et nous avons des assesseurs, ceux qui sont des juristes, ceux qui ont fait le droit, savent ça. Et donc, il y a le juge et il y a ses assesseurs. Et ces assesseurs aussi, ce sont des juges que chaque fois, le juge au centre consulte chaque fois pour demander certains conseils et autres. Et nous avons ce qu'on appelle le ministère public, qu'on appelle le procureur général. Et le procureur général, lui, il est là pour les intérêts de l'État, le ministère public. Et de l'autre côté, nous avons des avocats. Nous avons des avocats qu'on appelle des avocats défenseurs. Et de l'autre, nous avons peut-être un accusé ou des accusés. Des accusés. Et nous, nous sommes des accusés. Nous, les hommes, nous sommes des accusés. Et au tribunal des hommes, un accusé peut avoir plusieurs avocats. Je peux en avoir parce que si j'ai de l'argent, je peux avoir plusieurs avocats pour me défendre. Et ces avocats, hein, ils disent qu'ils constituent un collège d'avocats pour défendre leurs clients. Leurs clients. Hein, ils appellent clients. Voilà. Et quel est le rôle d'un avocat? L'avocat défenseur, justement, il est là pour défendre la cause d'un accusé. C'est ça, non? Pour défendre la cause d'un accusé. Même s'il est coupable, même s'il n'est pas coupable, s'il est coupable ou non, il est là pour plaider son innocence. C'est ça. L'innocence de son client. Même si cette personne est coupable, même s'il a volé, même s'il a tué, on dira que non, il n'a pas tué. Légitime défense. Ah oui, légitime défense, il n'a pas tué. C'est ce que l'avocat défenseur dira. Pour défendre son client. Ah oui, légitime défense. Il n'a pas tué. Légitime défense. Voilà le rôle d'un avocat. Et au tribunal de Dieu, nous sommes là maintenant au tribunal de Dieu. Au tribunal de Dieu, c'est toute autre chose. Au tribunal de Dieu, la vraie justice est rendue. On aura même constaté que au tribunal de Dieu, il y a un seul juge. Il y a un seul avocat. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il peut y avoir plusieurs avocats pour défendre un accusé ou des accusés. Mais ici, au tribunal de Dieu, il y a un seul avocat, un seul juge et un seul avocat, Jésus-Christ. Et sur les bancs d'accusés, il y a des millions d'accusés. Des millions d'accusés sur le banc des accusés. Et lui seul, Jésus-Christ, lui seul, l'avocat, le seul, il est chargé de défendre tous ces millions de personnes sur le banc des accusés. Seul Jésus-Christ pour défendre tout. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, regardons comment cet avocat, Jésus-Christ le juste, va procéder pour défendre son client. Son client. Jésus-Christ ne plaide pas l'innocence de son client. Non. Comme l'aurait fait l'avocat du monde, l'avocat du monde aurait dit que oui, il est innocent. Mais l'avocat Jésus-Christ dit non, il n'est pas innocent. Il a volé. Il a tué. Il a fait ceci, il a fait cela. Il est coupable. Si dans la salle, ceux qui veulent la libération de leurs parents diront, mais quel drôle d'avocat! Un avocat qui accuse son client. Un avocat qui accuse son client. Jésus-Christ accuse son client. Que mon client, oui, il est coupable. Et il dira, grand juge, mon client est coupable. Et il mérite la peine de mort. Il mérite tout ce que vous pouvez lui faire, il mérite cela. Et après, il dit, je me donne moi-même. Il dira au juge, je me donne moi-même pour prendre la place de mon client. Est-ce que vous avez vu cet avocat sur cette terre, ici à Paris, en France, ici? Un avocat qui dit au juge, juge, moi, je me donne. Il n'y en a pas sur cette terre. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il dit, regarde mes mains. Elles ont été clouées pour lui. Regarde ma côte. Elle a été percée pour lui. Regarde mon dos. Mon dos a été fouetté. Regarde mon dos. Mon dos a été fouetté pour lui. Amen. Le dos de Jésus a été fouetté pour nous. Il a été cloué à la croix pour nous, pour moi, pour vous aussi. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quel avocat nous avons au Père, auprès du Père. Un merveilleux avocat. Un merveilleux avocat. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ s'est présenté en victime expiatoire pour nos péchés. Cela voudrait dire qu'en mourant sur la croix, il nous a libérés de nos culpabilités. Il nous a réconciliés avec Dieu. En s'y faisant, il a satisfait la justice de Dieu. Christ, notre Sauveur, a satisfait la justice de Dieu. Nous méritons la peine de mort. Nous méritons la mort. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ prouva son amour envers nous. Il prouva son amour envers nous en mourant sur la croix. Et donc, ce châtiment qui nous donne la paix, ce châtiment est tombé sur lui. Frères et sœurs en Christ, pensons un tout petit peu à l'œuvre grandiose que cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth a accompli à la croix pour nous. Il ne nous a pas seulement aimés, mais il a accompli quelque chose de très grand pour nous. Quelque chose de très grand pour nous qui sommes ses frères. Nous sommes devenus les frères de Jésus-Christ. Et quant à nous, qu'est-ce que nous avons fait? Quant à nous, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit? N'ont même pas dit merci. Merci. Le mot merci, c'est un tout petit mot, mais un mot très important. Très important. Chez nous, en Afrique, quand quelqu'un te donne quelque chose, le lendemain, il retourne pour lui dire merci pour ce que tu m'as fait hier. On a cette habitude-là de le faire. Merci. Le mot merci, c'est un mot très important que nous devons cultiver. Nous devons chaque fois chercher à dire merci, 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 trois fois merci. Lui, il nous a aimés. Il nous a aimés. Même depuis notre conversion, tout à l'heure on a parlé de Paul, que Dieu a déjà choisi Paul comme apôtre depuis quand? Depuis quand? Et qu'est-ce que le psalmiste lui a dit? Le psalmiste a dit, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Cela voudrait dire que Dieu nous connaissait depuis le ventre de notre maman, de nos mamans. Dieu nous connaissait déjà. En fait, ce qui se passe là, c'est que l'amour de Dieu même produit un changement dans la vie de l'homme. Oui, l'amour de Dieu, ça produit un changement, un grand changement d'ailleurs. C'est pourquoi nous devons nous laisser aimer par Dieu, tout simplement. On n'a rien à faire. Se laisser aimer par Dieu. En quoi faisant? En faisant la volonté de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est immense. La volonté de Dieu, dans chaque verset de ce livre, il y a la volonté de Dieu. Et quand tu veux faire la volonté de Dieu, va dans ce livre, tu verras, tu trouveras la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? On a parlé tout à l'heure de mercredi que les gens n'arrivent pas. Mais oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui a mis beaucoup de temps pour préparer et qui est venu, et avec, il n'y a que des chaises vides. Ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous devons faire un effort pour venir à l'église. À l'étude biblique. C'est très important pour l'église. C'est très important pour l'église. Une église qui veut vivre pieusement. Je parle des membres de l'église. Je parle des membres. Quand je parle de l'église, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est vous. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'aller à l'école du Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre tous les jours. Tous les jours, nous devons apprendre. Parce qu'on a dit beaucoup de choses tout à l'heure. Mais après 10 minutes maintenant, on demande qu'est-ce qu'on a dit. On a déjà oublié. On a déjà oublié. Et donc, à chaque fois, il faut faire la répétition. C'est quoi? Les instructeurs disent que la répétition, c'est une... La meilleure méthode, hein, d'expliquer des choses, c'est la répétition. Fais la répétition. Et c'est la répétition. Qu'est-ce que nous disons ici? C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ça, non? On n'invente rien. Et on n'a pas le droit d'inventer d'ailleurs, d'ajouter, ni de retrancher. Nous devons dire exactement ce que Dieu nous dit. Dans sa prière sacerdotale, et en s'adressant à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ disait ceci dans Jean 17, verset 23, il dit, « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Si nous nous laissons aimer par Dieu, le monde saura que nous sommes en union avec Christ. Le monde saura que nous reposons sur l'amour de Dieu, non pas sur l'amour des hommes, mais nous nous reposons sur l'amour de Dieu. Dieu nous aime tant qu'il aime son Fils. Autant qu'il aime Jésus-Christ, de la même manière, Dieu nous aime. Quel Dieu amour nous avons. Ce n'est pas Dieu d'amour. Chaque fois, nous disons Dieu d'amour. C'est Dieu amour. Amour, c'est son nom. Dieu est Dieu amour. Amen. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il a fait de nous ses enfants parce que nous avons cru à Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et si nous ne nous aimons pas les uns les autres, Dieu ne demeure pas en nous. C'est ça. Vrai ou faux? Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimons les frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Vous avez aussi l'Esprit de Dieu, chacun individuellement. Pourquoi nous ne devons pas nous aimer les uns les autres? Laissons-nous aimer par Dieu, mes frères et sœurs. Soyons aimés par Dieu. Soyons aimés par Dieu tel que nous sommes. Et n'essayons pas d'aimer Dieu. N'essayons pas aussi d'aimer les autres. N'essayons pas. Il ne faut pas essayer. Parce que lorsque nous allons essayer d'aimer Dieu, essayer d'aimer les frères, nous allons échouer. N'essayons pas. Laissons Dieu nous aimer. Laissons Dieu nous aimer. Il ne faut pas essayer. Quand on essaie quelque chose là, mensonge. Il ne faut pas mentir. Laissons-nous aimer par Dieu. Le Seigneur nous aidera. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider à nous laisser aimer par lui. Et quand nous demandons à Dieu, quand nous le demandons sincèrement, Dieu fera quelque chose de très grand, de très important dans nos vies. Parce que nous sommes décidés de nous laisser aimer par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions nous laisser aimer par lui. Amen.